âme de toute âme. Et le vivant en prend conscience. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Ou d'autres versions disent, par un visage triste, le cœur peut devenir heureux. La traduction est débattue. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut écouter le reproche du sage qu'être un homme à écouter la chanson des insensés. Car les sermons crépitent sous la marmite, ainsi est le rire des insensés, c'est encore là une vanité. Ecclésiaste 7, les versets 1 à 6. Vous pouvez voir que ce passage parle à ceux qui sont laissés dans un monde où d'autres meurent et nous obligent d'aller dans la maison du deuil. Si vous regardez dans le verset 2, nous lisons « Mieux vaut aller dans une maison de deuil, seulement les vivants peuvent y aller, que d'aller dans une maison de festin. Dans celle-là se trouve la fin de tout homme. » Et le vivant, ceux qui sont laissés en voyant d'autres mourir, le vivant en prend conscience. Alors, ce passage s'adresse donc à vous. Et Dieu, dans sa parole, a quelque chose à nous dire, à travers la réalité de la maison de deuil. Et tout vivant doit en prendre conscience. Donc nous allons prendre un moment pour réfléchir. Vous avez peut-être remarqué en lisant le passage que tout au long du passage, l'auteur biblique met en contraste deux réalités différentes, très différentes et carrément opposées. Regardez avec moi. Dans un premier temps, dans le verset 1, il y a, dans la deuxième partie du verset, le jour de la mort et le jour de la naissance. Ça ne peut pas être plus opposé, n'est-ce pas? Dans le verset 2, on a la maison du deuil et la maison du festin. Dans le verset 3, nous avons le chagrin et le rire. Dans le verset 4, nous avons le cœur des sages et le cœur des insensés. Et dans le verset 5, nous avons le fait d'écouter le reproche du sage et le fait d'écouter la chanson des insensés. Dieu veut que nous sachions qu'il y a effectivement deux voies, deux perspectives, deux manières de vivre qui sont constamment présentes dans notre existence et qui font partie de notre vie. Chacun de nous est touché par les deux choses. Nous allons voir qu'il y a une légitimité dans les deux. Si vous avez bien suivi, il y a quatre choses qui sont contrastées. Il y a deux sortes de visites que nous pouvons faire dans la vie. On peut aller, voilà une visite, aller dans la maison du deuil ou aller dans la maison du festin. Deuxièmement, il y a deux sortes d'expériences émotionnelles qu'on peut avoir. Parce qu'on parle du chagrin et on parle du rire. Deux expériences émotionnelles. Il y a aussi deux orientations du cœur que nous voyons. Parce que dans un des versets, on a dit que le cœur du sage est dans la maison du deuil. Et là, on parle d'un état du cœur. Et le cœur de l'insensé est dans la maison de la fête. Et dernièrement, il y a deux voix à écouter. Parce que mieux vaut écouter donc la voix du sage qui te reproche que d'écouter la voix des insensés qui te chantent des chansons. Et nous allons donc suivre ces quatre contrastes pour essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers cette expérience tragique que nous sommes en train de vivre avec le décès de Nicolas et ce que la maison du deuil peut et doit nous apprendre. Une chose de plus dans l'introduction, c'est que vous remarquez dans le passage que constamment, l'auteur biblique est en train de dire « mieux vaut l'un que l'autre ». Regardez le verset 2. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Verset 3. Mieux vaut le chagrin que le rire. Verset 5. Mieux vaut écouter le reproche du sage qu'être un âne à écouter la chanson des insensés. Il est important que vous sachiez que quand vous lisez des livres de sagesse, par exemple le livre d'Ecclésiaste en particulier, cette façon de parler, de dire « mieux vaut ceci que cela », c'est une manière de faire croire. Pourquoi est-ce qu'il est constamment en train de dire « mieux vaut » ? Parce qu'il veut que nous placions, que nous, dans notre vie, nous ayons cette capacité de placer devant notre pensée deux expériences différentes, deux points de vue différents, deux réalités opposées, et que nous puissions les comparer, les évaluer et arriver à une préférence. Mieux vaut ceci que cela. De réfléchir. Le problème, parfois, dans nos vies, c'est que nous ne faisons pas ça. Nous vivons tout simplement ce qui s'offre à nous. La fête, la joie, l'école, les études, la mort, on vit tout simplement ce qui s'offre à nous, on réfléchit jamais. Qu'est-ce qui est plus important que l'autre? Ce n'est pas l'idée de refuser une chose catégoriquement et totalement. On ne refuse pas le festin. On ne refuse pas la fête. C'est difficile avec la fenêtre, mais Jésus était présent dans la maison du festin à plusieurs reprises dans les évangiles, n'est-ce pas? Vous pouvez penser à différentes occasions, Jésus a béni, pour ainsi dire, la fête des noces en étant présent. Et nous le voyons souvent dans des grands repas. Donc, il n'est pas question, ici, dans la salle, dans le livre de sagesse, d'anéantir une réalité pour ne choisir que l'autre. C'est un mieux vaut, c'est-à-dire il y a une chose qui montre quelque chose de plus important que l'autre. Gardez vos fêtes dans leur place, mais sachez aujourd'hui qu'il y a quelque chose que la maison du deuil que nous sommes en train de vivre vous offre d'incroyablement plus important que toutes les fêtes que vous avez jamais assistées. Il y a quelque chose qui peut arriver dans votre vie maintenant à travers ce décès tragique de Nicolas qui peut vous bouleverser d'une manière impossible à un jour de festin. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Ok, donc nous allons commencer avec les quatre points. D'abord, il y a deux visites à faire. C'est le verset 2, nous relisons. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. C'est vraiment une affirmation percutante. Si vous disiez ça à quelqu'un dans la rue, il vaut mieux aller au pont funèbre que d'aller au disco. Il vous dirait, mais tu es complètement fou. Mais l'auteur biblique explique pourquoi dans celle-là, c'est-à-dire dans la maison de deuil, se trouve la fin ou la finalité de tout homme. Et le vivant en prend conscience. On peut rencontrer, vous pouvez rencontrer maintenant, dans cette expérience de deuil que vous vivez, vous pouvez être en rapport et en contact avec une réalité ultime, des plus importantes, la réalité de la finalité de tout homme sur la terre. Et là, vous ne pouvez pas rencontrer vos discours. Maintenant, il faut bien comprendre que la maison de festin, de fête, de divertissement, n'est pas un lieu donné. Ça peut être chez vous, devant la télé, ça dépend de la chaîne que vous choisissez le soir, n'est-ce pas? Ça peut être chez des amis, dans une soirée de fête. Ça peut être dans un cinéma. L'endroit n'est pas important. C'est une expérience qu'on choisit d'avoir, n'est-ce pas? Maintenant, cette expérience est légitime et, je dirais, nécessaire à l'âme. Nous y voyons Jésus et nous avons besoin de fêter d'avoir des festins, d'avoir ces moments de divertissement. Mais quel bien est-ce que ça vous offre? À la limite, ça vous offre le certain bienfait d'être avec les autres, d'avoir une joie, certes, passagère. Le lendemain, c'est fini, n'est-ce pas? Mais c'est légitime, c'est bon, dans son contexte, l'immoralité ne vient pas à tout cacher, n'est-ce pas? Et donc, nous devons avoir ces expériences. Maintenant, la maison du deuil. La maison du deuil, vous ne fréquentez pas aussi souvent que la maison des fêtes, n'est-ce pas? Vous faites des petites soirées avec vos amis souvent. Bien, vous allez à des spectacles ou des événements particuliers. Quand est la dernière fois que vous avez eu à aller à l'église pour les obsèques? Ce n'est pas tous les jours. C'est moins fréquent, mais plus important pour votre vie, selon le texte biblique, selon Dieu lui-même. Et la raison est donnée ici, que nous avons lu, car là, dans la maison de deuil, nous avons devant nos yeux la finalité de tout homme. Regardez bien, la fin ou la finalité de tout homme. C'est-à-dire, l'auteur biblique n'est pas en train de dire « quand tu vas à la maison de deuil, tu vois la fin de tel homme ». C'est pas là la leçon. La leçon n'est pas que nous avons eu ce grand chagrin de voir le cercueil de Nicolas. La leçon pour vous, c'est que c'est là la fin de tout homme. Tu vas être dans le cercueil un jour. On sera en train de te pleurer et te lamenter. Et ton existence dans ce monde sera finie. Dieu va sonner la cloche, et il va dire, je t'ai donné le temps pour faire quelque chose dans ce monde, une tâche, je t'ai donné à faire. Maintenant, le délai est arrivé. As-tu fait la tâche? As-tu accompli la tâche? Donc, quand nous sommes dans les obsèques, je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous qui étiez là, jeudi, mais la maison de deuil nous donne ce message au sujet de la finalité. Voilà là où toi, tu vas aller. Est-ce que tu es en train de vivre maintenant de manière à préparer pour ça? Est-ce que ta vie maintenant est une vie qui est conséquente parce que en voyant la manière dont tu vis, c'est clair que tu sais que tu vas là-bas et que c'est quelque chose d'effroyable, c'est quelque chose d'ultime et d'éternellement important. Et maintenant, tu es en train de vivre comme quelqu'un qui a été à la maison du deuil et qui voit que c'est là la finalité de tout homme. Ou bien, est-ce que tu vis dans les maisons de fête constamment, comme s'il n'y a aucune réalité telle que la mort, le jugement éternel devant la face de Dieu, l'éternité à venir? Combien de nos amis vivent comme si la maison de deuil n'existe pas? C'est ce qu'elle nous dit. Deuxième réalité ou deuxième contraste. Nous avons vu qu'il vaut mieux aller dans la maison du deuil, pas fréquemment, pas tout le temps, mais ce que nous retirons de là est d'une importance, d'une gravité, d'un potentiel énorme pour nous faire du bien qui dépasse tout ce que les fêtes peuvent nous offrir. Parce que là, on peut se rendre compte de la nature de cette vie et notre tâche ici-bas. Mais deuxièmement, nous voyons deux expériences émotionnelles contrastées. Dans le verset 3, nous disons « Mieux vaut le chagrin que le rire ». Car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Il est bien possible que dans le contexte, le rire, en lisant ce qui suit, c'est le rire de la plaisanterie légère. Parce que dans la suite, nous voyons le cœur des sages dans la maison de l'œil, le cœur des insensés dans la maison de joie. Mais ce sont des insensés. Et leur joie et leur rire est une certaine sorte de joie et de rire. Donc, voilà, le chagrin, une expérience émotionnelle que tu dois avoir dans la vie, et le rire, c'est-à-dire la jovialité ou l'amusement, le sentiment d'amusement que tu peux avoir aussi. Alors encore, je vous dis d'emblée que les deux sont légitimes et nécessaires. Un homme qui ne peut jamais rire est un homme morbide. Et la Bible dit que la morbidité est très mauvaise pour l'âme de l'homme. Donc il est bien de l'avoir à sa place. Mais mieux vaut le chagrin que le rire. D'abord, on va donc comparer, on va évaluer, on va se demander quel vient le rire, l'amusement, la plaisanterie, est-ce qu'il me fait dans ma vie. Bon, ça me décompresse, ça m'aide à relâcher, n'est-ce pas? C'est très bien. Ça m'aide à me remonter parfois, à avoir un peu de, oui, une bonne légèreté parfois, de ne pas être toujours lourd, toujours dans une gravité qui déprime. Donc, c'est important, l'équilibre, pour l'équilibre mental, n'est-ce pas, de pouvoir rire, de pouvoir voir ce qui est honnêtement drôle. Mais quel bien est-ce que ça peut te faire de rire? Quel bien durable pour ton caractère? Le problème dans la société aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à vivre là, à ne jamais avoir de chagrin, à être noyé dans le rire, justement, afin d'éviter tout ce qui peut être sérieux et attristant. Nous avons même une chaîne de radio en France qui s'appelle Rire. N'est-ce pas? Et si vous voulez, vous pouvez toute la journée entendre des choses, oui, plus ou moins insensées. Parfois drôles. Mais vraiment, c'est le caractère insensé. Et ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que ce qui est particulier dans le rire, et la raison pour laquelle l'auteur biblique dit « mieux vaut le chagrin que le rire », chose étonnante à dire, c'est que le rire ne peut pas vous amener plus loin que rire. Le rire ne peut pas vous amener plus loin que rire. C'est-à-dire, le fait d'aller rire dans les plaisanteries, ça ne vous apporte pas quelque chose dans votre caractère qui vous change pour le bien durablement. Le rire est éphémère, il provient de quelque chose de frivole, et il mène à quelque chose d'éphémère. C'est ça? Une émotion légère, de jovialité, qui passe. Le rire ne peut pas vous faire un plus grand bien que cela. Le rire légère dont il s'agit ici. Et maintenant, le chagrin. Le chagrin, donc, est un sentiment qui ne vient jamais d'une chose frivole. Le chagrin vient toujours des choses profondes. La mort, la souffrance, la solitude, le manquement, tout ce qui vient, en fait, du péché, cause le chagrin. Quelqu'un pourrait venir dans cette pièce et nous faire rire dans 2 minutes, s'il était drôle, n'est-ce pas? C'est facile de provoquer le rire pour un rien. Et dans un clin d'œil. Mais personne ne pourrait venir ici et nous amener à un vrai chagrin d'une telle manière. Il faudrait qu'il y ait une cause réelle et profonde pour que nous soyons véritablement affectés. Ok, vous voyez la différence entre les deux émotions? Maintenant, pourquoi est-il vrai que probablement cette traduction, dans une des nouvelles traductions, on dit par un visage triste, le cœur peut devenir heureux. Pourquoi est-ce que, et certainement c'est le sens de l'ensemble de ce verset, parce qu'il dit mieux vaut le chagrin, c'est-à-dire le chagrin vous offre quelque chose, il vous fait devenir quelque chose que vous n'étiez pas. Et pourquoi est-ce que le chagrin, si vous répondez bien à lui, je dis bien, hein, parce que le chagrin parfois amène les gens à ne faire que se déprimer ou bien à se fâcher. Mais en acceptant de regarder la cause du chagrin et de répondre bien, comme ce décès de Nicolas, nous pouvons profiter et retirer quelque chose d'important pour notre vie. Regardons pour un moment. Rappelez-vous que dans l'évangile de Luc, dans les béatitudes de cette version de l'évangile, de son époque, je vais juste vous lire. Je me demande si Jésus n'est pas en train de penser à Ecclésiaste 7. Parce que, écoutez ce qu'il dit. Il parle de ces deux mêmes expériences, chagrin et rire, et il leur donne aussi, lui, une valeur. Donc, attendez, je regarde juste le verset, oui. Okay. Donc Jésus dit ceci. Pardon, c'est un mauvais chapitre. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, chagrin, car vous serez dans la joie. Et plus loin, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Jésus prend les mêmes phénomènes et il dit « mieux vaut le chagrin que le rire ». Pensez à ceci. Je connais quelques personnes, j'ai connu quelques personnes dans ma vie qui ne font presque rien d'autre que plaisanter. Quand vous êtes avec eux, c'est toujours, toujours des blagues. Jusqu'au point où ça devient un peu lassant. Maintenant, quand le grand malheur vous frappe, quand la mort frappe votre famille, est-ce que c'est auprès d'une telle personne que vous voulez aller pour discuter? Se noyer constamment dans le rire laisse quelqu'un superficiel et incapable d'être utile dans les moments difficiles de la vie, n'est-ce pas? Alors, par contre, quelqu'un qui a traversé des grands chagrins, la perte d'un enfant, la perte d'un conjoint, et qui a vécu ça avec le Seigneur, quand vous vous êtes frappé du malheur des malheurs, et que vous êtes dans des pleurs et des lamentations, n'est-ce pas, à cette personne que vous pensez tout de suite et que vous voulez aller. N'est-ce pas auprès d'une telle personne que vous pouvez trouver juste les bons mots, juste les gestes qu'il faut. Cette personne a une profondeur de caractère capable, n'est-ce pas, de vous aider dans ce moment. Eh bien, ça vous montre que le chagrin vaut mieux que le rire. Parce que regardez, celui qui s'est noyé dans le rire et celui qui a été noyé dans le chagrin et ce que cela a produit. Nous pouvons penser aussi à l'effet du chagrin qui vient par le remords du péché, n'est-ce pas? Ce chagrin énorme quand on réalise qu'on a vécu d'une manière indigne envers Dieu, mais qui nous amène justement à nous repentir, à quitter cela, à nous réveiller et à embrasser le Christ, à être sauvés. Tout le salut part d'un chagrin. Personne n'est jamais sauvé sans d'abord être convaincu de son péché et plongé dans le chagrin. En fait, Paul le dit. Il dit que le chagrin, selon Dieu, produit une repentance sans regret. Ne fuyons pas le chagrin, qui est le nôtre en ce moment. Nous ne voulons pas abuser ce chagrin, pour nous plonger dans un déprime qui est mauvais, qui ne nous fait aucun bien, mais nous voulons embrasser la vraie tristesse du moment et apprendre de lui. Le troisième contraste que nous voyons, c'est deux orientations de cœur différentes. Et là, nous lisons le verset 4. Le cœur des sages, c'est ce que nous voulons être, des sages. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Ici, nous ne parlons plus d'une visite. Dans le verset 2, il était question d'une visite ponctuelle. Mieux vaut aller, faire une petite visite dans la maison du deuil que dans la maison du chrétien. Ici, il s'agit d'une demeure. Le cœur d'un homme sage ou d'une femme sage est dans la maison du deuil. Vit là, à son adresse là. D'accord? Maintenant, je vous mets en garde, il ne veut pas dire le cœur du sage est tout le temps déprimé. C'est pas le sens. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le siège de nos sentiments, de nos attirances, de nos perspectives envers la vie. C'est le centre de commandement de l'âme, n'est-ce pas? Alors, quand on dit que le cœur des sages est dans la maison du deuil, ça veut dire que la mort, la réalité de la mort, informe le cœur d'un homme sage, informe le cœur, et a une place permanente, cette réalité, dans sa vie et dans sa manière de voir la réalité. Ok? Donc, le cœur d'un homme sage n'oublie jamais qu'il y a la mort. Il est toujours dans la maison de deuil dans ce sens. Il ne va jamais être comme cet insensé, le cœur des insensés dans la maison de joie. Ça veut dire que cette personne, sa vie et sa perspective est formée et orientée par quoi? Le fun. Le fun. Toute sa manière de penser, ses attirances, ses priorités, ce qu'il veut vraiment, c'est informé par une seule chose, la maison de fête. Moi, je veux fêter. D'accord? Et ça oriente sa vie. Alors, il est temps de se demander où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Il s'informe et il se laisse former par le fait que ma vie est courte. Je m'en vais tout droit vers la mort. Et la maison le cœur des insensés veut être toujours que dans le fun, dans la mission. C'est une manière folle et périlleuse de vivre, que Dieu condamne et qui mène à l'enfer. Le dernier contraste que nous avons, c'est deux voix à écouter. Et ça, nous le lisons dans les versets 5 et 6. Mieux vaut écouter le reproche du sage qu'être d'âme à écouter la chanson des insensés. Comme les charmants crépitent sous la marmite, ainsi est le rire des insensés, c'est encore là une vanité. Deux voix dans la société s'adressent constamment à nous. Une voix des sages qui est une voix difficile à écouter parfois, parce que c'est une voix qui souvent, pas toujours, mais la voix d'un vrai sage, la voix de la sagesse de Dieu surtout, vient nous corriger, nous reprocher. Comme un bon instructeur de conduite, qu'est-ce qu'il fait dans la voiture avec le novice? Sa voix est là pour corriger. Presque uniquement. Pourquoi? Parce que il ne sait pas conduire. Il est en danger. Et ce dont il a vraiment besoin pour son bien, c'est une voix qui le corrige constamment. Non, 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 ralentis. Ah, il faut tourner, il faut pas braquer comme ça. N'est-ce pas? Tu as regardé dans le rétroviseur? Et cette voix de reproche, c'est cette voix qui permet à la personne d'être un bon conducteur et d'aller dans les endroits différents du monde sans faire des accidents, pas, et sans tuer d'autres personnes. Voilà la voix des sages qui reprochent. Ou bien la voix du professeur de musique. C'est bien de pouvoir jouer une belle musique sans note discordance, n'est-ce pas? Mais pour cela, il faut écouter la voix qui corrige, qui dit non, plus lentement là, dans ce passage. Et cette voix qui corrige, qui reproche, c'est pour amener à la bonne musique. Eh bien, l'Écriture nous dit que mieux vaut être une personne qui écoute, pas à tout moment de ta vie, hein, la voix qui reproche, mais qui a l'oreille tendue pour entendre la voix de l'Écriture, même dans un message comme ceci, qui vient reprocher. Moi, je suis en train de vous donner un message qui, le temps de ce message est surtout de corriger, n'est-ce pas? Mais c'est la voix de la sagesse de Dieu qui vient dire, voilà, là, tu as besoin de revenir dans le chemin. La voix des insensés est là pour te chanter des chansons. Et là, nous avons toute une, nous pourrions avoir en tout cas toute une méditation, la chanson. Quelle puissance la musique pour orienter, ou pour nous mettre dans une certaine sorte d'ambiance intellectuelle et émotionnelle. Ça nous emporte, la musique. Et le cœur des insensés voudrait n'écouter que la chanson. La chanson des insensés. Et si vous pensez aux jeunes aujourd'hui, c'est notre tentation, c'était la mienne quand j'étais jeune, et ce l'est encore aujourd'hui, de passer ma vie à écouter la musique. Mais quelle musique? La musique entraînante. La musique qui ne m'oblige à penser à rien de sérieux, rien de grave. La musique qui me met dans la maison de fête, tout est bon, d'émotions, d'amour, de romance. Et là, écoutez ça, 24 heures sur 24, ou au moins 12 heures sur 12, c'est le vécu des jeunes aujourd'hui, avec les iPods et tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est une chose, moi je trouve, séduisant. C'est très séduisant pour moi. Tellement séduisant que je me trouve parfois complètement emporté par la chanson. La chanson mondaine. Lui donner juste une place est très, très difficile. Elle est tellement belle. Elle donne tellement de plaisir. Mais la Bible est en train de nous dire aujourd'hui, regardez la maison de deuil et demandez-vous, est-ce que je dois écouter ces chansons tout le temps, tout le temps, tout le temps? Est-ce que c'est censé, dans un monde où des gens sont en train de mourir, tragiquement, et où moi-même je vais mourir, est-ce que c'est censé que je me noie dans la chanson mondaine et insensée? Et la Bible dit non. La voix, le cœur de l'insensé écoute et n'écoute que la chanson sans gravité. Je termine. La voix de la sagesse dans la maison du deuil est une voix percutante. La plupart des gens, je dis, étaient dans les pleurs. Tout le monde était accablé. Parce que dans la maison de deuil, on a un message percutant et réel d'actualité. Nous ne savons pas si nous allons faire un accident de voiture en rentrant aujourd'hui ou demain ou le mois prochain. Nous ne savons pas à quelle proximité la mort est à nous. Qui aurait pensé? Quel choc pour nous tous! Cette nouvelle que Nicolas, que nous aimions, que nous connaissions, qui allait bien, est mort d'un coup. C'est une voix percutante. Et cette voix nous dit que la vie dans ce monde ne dure pas à jamais, que la mort est triste et tragique, quelque chose d'impensablement horrible est entré dans ce monde, à travers le péché. Il y a quelque chose de trop sérieux dans cette vie pour la passer comme si le seul but était le fun. Ça, c'est le message du deuil. Tout ce que j'ai, l'amusement, les amis, les chansons, sera emporté un jour, comme pour Nicolas. Emporté d'un coup. Est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui en bonne intelligence à cela? Rien ne peut me convaincre dans la maison du deuil, ou après, si je suis intelligent et si j'ai écouté, que le but de la vie, c'est l'amusement. Ce message, le message de ce passage, c'est simplement que le but de la vie n'est pas la fête. Le but de la vie, et la maison de deuil nous l'apprend, c'est de nous préparer pour la mort. Votre tâche première, vous avez une échéance. Cette échéance est déterminante éternellement. Et votre tâche première, pas unique, mais première dans cette vie, c'est de vous apprêter pour le jour de la mort. Et pour cela, il faut venir à Jésus-Christ le ressuscité et il faut marcher avec lui tous les jours à la lumière de sa résurrection. Si vous êtes croyant, je vous encourage à faire ce que Richard Baxter, le puritain, faisait tous les jours de sa vie. Il prenait 10 à 20 minutes tous les jours pour méditer sur la mort. Voilà un homme qui était un des plus profonds des théologiens du XVIIe siècle, et sa pratique bienfaisante était de visiter consciemment et délibérément la maison du deuil tous les jours. De penser à la mort, de penser à sa mort, et ne jamais laisser passer une journée sans avoir consciemment rappelé à son cœur cette réalité. C'est intéressant, n'est-ce pas? Je vous demande, comment est-ce que vous changeriez si vous faisiez ça? Comment est-ce que ta vie chrétienne changerait si tu faisais cela? Le cœur du sage est dans la maison du deuil. Nous allons chanter. Nous allons rester assis cette fois, mais nous allons chanter le numéro 393, nos fugitives années.